Donc, dans le teasing, quelque part, qu'est-ce qui nous amène à cette réunion? C'est qu'aujourd'hui, on le voit, on le sait, les entreprises sont de plus en plus digitalisées. On recherche toujours de l'efficience opérationnelle. On sait qu'il y a eu une grande vague pendant 15-20 ans autour, par exemple, du lean, des process lean, hein, avant qu'on ait vraiment cette digitalisation des entreprises. Donc, on cherchait à optimiser les processus, la production par tous les moyens, par des leviers organisationnels, entre autres. Et puis, je pense qu'on est un peu arrivé au bout du bout de ce qu'on peut faire simplement avec du lean, du Lean Six Sigma. Et maintenant, on commence à chercher des relais d'efficience opérationnelle un peu partout, notamment avec le digital. Et donc, pour arriver à réellement faire émerger des accélérateurs digitaux dans des cas d'usage innovants à valeur ajoutée pour l'entreprise, il va falloir s'appuyer sur une vue d'ensemble qui est compliquée à avoir, puisque d'un côté, on a des acteurs métiers qui connaissent parfaitement bien leur métier et ont une relativement bonne vision de ce qui ne fonctionne pas ou de ce qui pourrait fonctionner mieux, mais ne savent pas forcément comment, au niveau du digital, on peut trouver une réponse à l'équation. D'un autre côté, on peut avoir un ensemble d'experts sur différentes technologies digitales. Et là, on va souvent rencontrer des problématiques justement où les gens sont parfois un petit peu trop spécialisés et auront tendance à vouloir faire rentrer les problématiques métiers dans leur zone de confort technologique. Et justement, le but, c'est de sortir un petit peu tout ça. Et le rôle de l'architecte d'entreprise, en tout cas tel que je le présente là, c'est de jouer un rôle de facilitateur. En proposant une vision fonctionnelle holistique, hein, c'est le fameux terme, global sur le champ des possibles digital, c'est-à-dire quelque part, ça s'appuie sur une forme de culture générale, un peu 360 des accélérateurs digitaux du moment, présenté avec un prisme fonctionnel, parce que le but n'est évidemment pas de faire la leçon technique à des acteurs métiers, ça ne les intéressera pas, mais de vraiment faire une accroche fonctionnelle qui sera le dénominateur commun entre la vision métier et le champ des possibles technologiques. Et c'est à partir de cette convergence fonctionnelle qu'on va arriver à projeter des cas d'usage potentiellement avancés, innovants. Par ailleurs, le terme innovation, on pourrait débattre pendant longtemps sur qu'est-ce que c'est que l'innovation. C'est quelque chose qui est aussi très relatif. Une chose innovante pour une entreprise mais un peu moins pour une autre. On a des technologies émergentes qui sont une forme d'innovation aussi. Parfois, le simple fait d'utiliser correctement une technologie qui a 20 ans peut être une forme d'innovation également. Donc, chacun verra à travers son propre prisme ce qu'est l'innovation. Mais en tout cas, l'ambition qui est présentée dans cet atelier, c'est ça, c'est apporter une vision fonctionnelle globale. Et pour ça, c'est très compliqué parce que les accélérateurs digitaux, aujourd'hui, il y en a énormément. On ne sait pas par où prendre les choses et on ne sait pas comment aborder cette fameuse vision fonctionnelle. Intermédiaire. Du coup, en tout cas, au niveau d'Astrakhan, donc l'entreprise que je représente, on a essayé de travailler sur un canevas d'accélérateurs digitaux présentés selon un prisme fonctionnel, avec un découpage lisible, c'est-à-dire on a identifié 6 familles d'accélérateurs digitaux. À l'intérieur de chacune de ces 6 familles, 3 focus fonctionnels. À l'intérieur de chacune de ces cases, on va du coup voir en détail chacune, se cache une ou plusieurs technologies digitales, un accélérateur digital. L'intérêt de tout ça, c'est du coup de supporter, vous allez le voir, une vision très complète de toutes les briques de Lego unitaire, ces fameux accélérateurs digitaux. Et on verra en fin de présentation, une fois qu'on a vu les différentes briques, comment on peut les projeter sur des cas d'usage concrets d'entreprise, voire anticiper certaines choses. On le verra en conclusion. Du coup, la première famille, vous l'avez vu, c'est la création de la valeur par l'optimisation des processus. Donc là, se cache derrière pas mal de choses. Il y a déjà des enjeux d'automatisation de processus. Qu'est-ce qu'on entend par automatisation de processus? C'est les classiques orchestrations de processus métiers avec des assets digitaux de type BPMS, notamment Business Process Management System, qui permettent d'orchestrer de bout en bout des processus potentiellement complexes, de les monitorer, d'automatiser autant que possible certaines tâches métiers. Mais la famille s'est agrandie avec le temps, hein, puisqu'on a également le RPA, Robot Process Automation, qui complète la famille BPMS depuis quelques années, avec un un petit peu de redondance fonctionnelle sur certains aspects, c'est-à-dire il y a également cet aspect workflow interapplicatif qui permet d'automatiser des tâches relativement pénibles et répétitives de l'être humain en se connectant à différentes sources hétérogènes pour réaliser des actions, des tâches qui ne sont pas forcément automatisables de façon propre au logiciel. On peut mettre aussi derrière, j'ai envie de dire, tous les logiciels métiers, en général, un ERP, un WMS ou ainsi de suite. C'est tous ces logiciels qui, quelque part, donnent un cadre sur l'exécution des processus d'entreprise et qui sont focalisés sur un process d'entreprise. C'est une façon d'automatiser également les process par le digital. On ne va pas rentrer là dans le détail des logiciels, c'est juste pour dire qu'on classe tous les logiciels cœur de métier dans cette case-là, en complément des BPMS et des RPA. Deuxième axe, deuxième focus, le lean. Donc, notre optimisation, notre dégraissage des processus. Aujourd'hui, donc, on a vu qu'il y a l'historique, une approche top-down avec les Lean Six Sigma qui reste toujours d'actualité, même si elle s'essouffle peut-être un petit peu parce que c'est devenu quelque chose d'intégré, on va dire, dans toutes les entreprises d'une certaine taille. Quels sont les relais de croissance sur cette, enfin, les relais d'optimisation sur ce volet-là par le digital? On va parler de process mining, c'est-à-dire, quelque part, c'est une approche un peu plus bottom-up, c'est l'exploitation des traces numériques laissées par l'exécution des processus et qui va nous permettre de rejouer des processus, de dynamiquement construire la réalité d'un processus dans son environnement de production par opposition à la théorie qu'on peut avoir dans les départements qualité, identifier les écarts, et certains écarts sont bien, d'autres le sont un peu moins, et travailler dessus. Également, au passage, c'est un outil qui permet de simuler en un temps accéléré des exécutions de processus sur 6 mois à 1 an, et donc d'identifier des étranglements capacitaires notamment, ou des volumétries disproportionnées de variantes de processus. Tout ça, c'est un accélérateur digital qui va supporter l'optimisation des processus. Un autre focus encore sur les processus, un autre type d'accélérateur digital, c'est la simulation des processus. On va voir qu'aujourd'hui, on commence à rentrer de plus en plus dans une virtualisation de beaucoup de choses. On sait virtualiser des machines, on sait virtualiser des LAN, on sait aussi virtualiser des processus à travers des outils spécifiques de simulation de processus. Quel est l'intérêt de ce type d'accélérateurs digitaux? Ben, c'est de mettre à l'épreuve un processus dans des conditions pas toujours sympathiques pour anticiper, là encore, des étranglements capacitaires ou d'autres formes de difficultés. Donc, on cale, et c'est complémentaire avec le BPM. Le BPM, c'est vrai, c'est vraiment un cadre pour exécuter en prod un process et faire rentrer tout le monde dans le moule. La simulation de process, on va reprendre la modélisation d'un process BPM, par exemple, et on va le tester, le stress tester, on va dire, dans des conditions extrêmes pour voir jusqu'où on peut tenir avec un certain dispositif capacitaire. Voilà pour la famille de création de valeur par l'optimisation des processus. On voit que tous ces logiciels, ces accélérateurs digitaux, permettent, par l'approche processus, d'aller plus loin que les approches classiques Lean Six Sigma centrées processus. Deuxième famille, la création de la valeur par l'exploitation et la valorisation des règles métiers. Donc les règles métiers, c'est quelque part souvent un peu le parent pauvre du système d'information parce que on y réfléchit une fois quand on fait du code, quand on paramètre des logiciels, puis après ça part un peu dans les oubliettes. Il y a souvent de la dette fonctionnelle qui se crée parce qu'on oublie de documenter tout ça. Il y a du turnover qui fait que les concepteurs ont tourné et on ne sait plus trop comment fonctionnent les choses. Je pense que partout, on vit ça. Pour autant, il y a une vraie mine d'or, hein, parce qu'on n'arrête pas de dire que la donnée, c'est le pétrole de demain, mais la règle métier est également le pétrole de demain, et on va le voir à travers cette famille-là, spécialement dédiée à nos amis règles métier. Là encore, on dégage trois focus. Un premier, l'automatisation de corrélation par observation d'événements sur une fenêtre de temps glissante qui peut être plus ou moins large. Alors, ça peut être une fenêtre de temps sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours, ou des fois sur moins d'une seconde. Dans les cas extrêmes, moins d'une seconde, bah, vous connaissez tous le trading haute fréquence sur les places d'investissement où il y a des observations d'événements de forte volumétrie venant des différentes bourses mondiales. Et donc, ces traders robotisés, à travers l'asset complexe event processing, Eh bien, ces robots ne fonctionnent, ce sont finalement des moteurs de règles qui exploitent des règles prédéfinies par des mathématiciens spécialisés dans le monde de la finance, qui vont donc faire des corrélations en temps réel sur des contextes potentiellement complexes et générer dynamiquement des événements de réponse opportunistes ou réactifs, défensifs, donc des achats, reventes de titres de diverses formes. Ça, c'est un exemple, mais évidemment, ça ne sert pas qu'au monde de la finance. Ça peut servir également au monde, par exemple, industriel, pour faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire on va détecter des signaux faibles qui sont caractérisés par des règles métiers, là encore, sur une fenêtre de temps glissante, l'usage d'usure d'une machine, par exemple, pour éviter qu'elle casse avant qu'il y ait eu son cycle de maintenance. Voilà, donc il y a plein d'autres usages, détection de fraude, enfin, bref, on peut en citer beaucoup d'autres. Donc, la capacité à capitaliser sur des règles métiers et à en faire des automatisations de corrélation est une forme de valeur ajoutée significative dans différents cas d'usage métier. Et le complexion processing est donc là pour supporter ça. Les règles métiers, là, on a vu dans le complexion processing, sont des règles métiers qui sont portées, posées par l'homme, définies par l'homme. Il y a aussi de plus en plus maintenant la capacité de finalement hériter de règles métiers, mais qui sont définies par la machine elle-même. Donc, c'est tous les mécanismes actuels d'apprentissage de la machine. Donc, les techniques actuelles sont des techniques par essai-erreur, hein. Vous avez tous en tête l'exemple de la machine qui a appris à jouer toute seule au go, hein, le jeu du go, en démarrant de rien. C'est-à-dire, c'est par opposition à d'autres tentatives où il y avait déjà une bibliothèque des meilleurs coups joués par les meilleurs joueurs, là aux échecs. Là, c'est vraiment, je te donne les règles du jeu du go, tu joues, tu apprends, et tu en déduis ce qui est bien et ce qui est moins bien par toi-même. Donc, tu te construis ta base d'apprentissage toi-même et tu progresses toi-même. Et en, je ne sais plus si c'était quelques jours ou quelques semaines, avec évidemment des millions de parties qui ont été jouées par la machine elle-même contre elle-même,
Oui.
imbattable, même par les meilleurs joueurs mondiaux. Donc là, c'est de l'apprentissage de règles par la machine actuellement. Aujourd'hui, c'est par des mécaniques d'essai-erreur. Est-ce que demain, on peut anticiper d'autres approches scientifiques, justement, par exemple, par des corrélations de faits, en déduire de nouvelles règles d'apprentissage? C'est quelque chose qu'on découvrira peut-être de notre vivant et qui changera encore la donne sur l'apprentissage des règles métiers. Donc aujourd'hui, c'est le reinforcement learning qui est la technologie du moment. L'intérêt du Canva que je vous présente, c'est qu'il a cette vision fonctionnelle complètement décorrélée des technologies. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va parler de reinforcement learning. Peut-être que demain, il y aura justement une technologie qui sera complémentaire, qui sera par corrélation d'événements et qui va donc créer automatiquement des règles par la machine. Aujourd'hui, elle n'existe pas, ou alors si elle existe, je ne la connais pas, elle n'a pas de nom. Mais voilà, l'idée, c'est que derrière les besoins fonctionnels, ils existeront toujours. Par contre, les technologies qui peuvent répondre aux différents prismes à ces besoins fonctionnels, elles vont se développer dans le temps. Donc, c'est un framework qui doit vivre, évidemment, qui peut se challenger, hein, c'est-à-dire on peut toujours essayer de trouver une nouvelle famille de cas d'usage fonctionnels, de briques fonctionnelles. Troisième utilisation des règles métiers, bah, c'est pour résoudre des problèmes. Donc, vous avez tous probablement connaissance de ces fameux problèmes NP complets, donc ce sont des problèmes qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, qui n'ont pas de solution mathématique connue à ce jour. Ce sont des problèmes d'ordonnancement ou en tout cas, donc des problèmes où on a différents objets métiers qui ont des contraintes respectivement, des contraintes entre eux, et sur lesquels on cherche la meilleure combinaison pour optimiser les ressources. Donc typiquement, ça peut être les cas d'usage classiques d'emploi du temps scolaire, optimisation d'un prix postal, les hôpitaux, l'usage des hôpitaux, hein, où il faut croiser des patients qui arrivent de façon prévue et imprévue, des chambres qui sont simples, doubles, mixtes ou pas, avec des équipements X ou Y qui sont compatibles ou pas avec le protocole médical du patient, et ainsi de suite. Les ressources humaines, infirmières, médecins, chirurgiens, ainsi de suite, qui chacune ont leur quote-part dans le protocole. Et donc tout ça devient vite, unitairement, c'est assez simple à comprendre, mais quand on compile tout ça pour chercher le meilleur usage de toutes les ressources, c'est compliqué. Et quand on recherche la meilleure solution, quand il y a une ressource qui manque, par exemple une infirmière qui ne se présente pas alors qu'on avait prévu de faire plein de choses, ou un électrocardiogramme qui est fixé dans le mur d'une pièce et qui tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'on avait prévu que le patient X allait se faire scanner à tel moment, à tel endroit, la capacité à rejouer des planifications le plus vite possible pour faire face à des impondérables. Tout ça, c'est là encore le croisement d'un ensemble de règles métiers, exprimées sous forme de contraintes dans ce cas précis, qui va permettre de résoudre des problèmes de la vie courante qui aujourd'hui sont très complexes. Et parfois, dans certaines entreprises, on a des planificateurs, des gens payés à temps plein pour essayer de trouver le meilleur chemin possible sur l'usage des ressources. Demain, beaucoup de choses peuvent être optimisées par ce qu'on appelle des solvers d'une part, donc c'est des espèces de systèmes experts dans lesquels on va paramétrer les règles, les objets métiers, les contraintes qu'on a sur ces objets métiers sous forme de règles. Et puis, vous avez tous, on a eu un brillant exposé il y a quelques mois sur le quantique, hein, l'ordinateur quantique. Donc c'est une vraie perspective, l'ordinateur quantique, d'aller résoudre des problèmes NP complets, cette fois, j'ai envie de dire, par la force brute, c'est-à-dire en faisant l'exploration combinatoire complète. Aujourd'hui, c'est juste un doux rêve, même avec les serveurs les plus puissants mondiaux, on ne peut pas espérer trouver dans un délai raisonnable une réponse à un problème NP complet. Avec l'ordinateur quantique, ça se discute selon l'évolution de cette technologie. Troisième famille, la création de valeur par l'interprétation de l'info, l'information. Interprétation, mais également la capacité à y accéder, à la reconnaître. Donc, trois familles là encore. Une famille qu'on a appelée Structured Knowledge, elle est en fait assez large, cette famille-là. Son ambition, c'est d'accéder à la donnée, en tout cas de la reconnaître, de lui donner du sens et de contrôler le cycle de vie de cette information. Parce que c'est déjà en soi quelque chose d'assez large. Le tout en complète abstraction de la complexité du système d'information qui fournit cette information. Dit comme ça paraît extrêmement simple, mais on voit bien que derrière se cache une certaine complexité, puisque derrière se cache plein de choses. Se cachent des outils de data gouvernance, puisqu'on parle de cycle de vie de la donnée. Hein, quelle est la bonne donnée? Quand est-ce qu'elle est disponible? À quelle fraîcheur? Donc sa fiabilité. Comment je la. Voilà, après il y a tout ce qui est archivage, ainsi de suite. Enfin, bref, beaucoup de choses se cachent derrière ça. Il y a la notion d'ontologie aussi, qui est souvent oubliée ou méconnue. Je fais référence par exemple à des besoins sur tout ce qui est système d'information scientifique, des bases de données scientifiques par exemple, où aujourd'hui bah, on classe des documents avec des arborescences classiques dans des GED. On peut parfois essayer de les flaguer avec quelques métadonnées et faire des recherches en full texte, search, mais ça s'arrête là. Et l'idée, c'est justement que ces métadonnées, ce ne soient pas simplement des petits tags qu'on définit librement, qui vont être très vite, qui vont très vite atteindre leurs limites, c'est de définir des ontologies, donc quelque part, sont comme des tags qui ont des liens sémantiques entre eux et qui vont du coup permettre aux moteurs de recherche sémantique d'aller beaucoup plus loin, bien au-delà des limites du full text search. Même s'il y a du fuzzy search en complément, donc ces corrections de fautes de frappe et tout ça. Donc full text search, fuzzy search, c'est très bien. Mais on peut aller beaucoup plus loin avec les ontologies qui vont donc permettre de faire des liens sémantiques entre des métadonnées. Et bah, du coup, remonter plein d'informations en filtrant de façon très très pertinente. Donc un vrai pouvoir derrière les ontologies qui est rarement utilisé, mais après, faut qu'il y ait un vrai besoin derrière aussi. La data virtualisation, un sujet à part entière, c'est-à-dire le concept, il existait depuis très longtemps. Hein. Quand j'ai commencé ma carrière, on en parlait déjà conceptuellement, mais par contre, les outils ne suivaient pas parce qu'il y avait des problèmes de perte, hein, tout simplement. Donc, c'était un doux rêve mettre ça sur des vrais systèmes de production. Maintenant, ça devient, on va dire, une réalité parce que les technologies fonctionnent suffisamment vite et bien pour permettre ça. Donc, c'est quelque part. Cette virtualisation de données, c'est ni plus ni moins qu'une capacité d'adresser, finalement, de virtualiser différentes sources de données, de faire une couche d'abstraction sur l'accès aux données, quelque part en pointant directement sur les fournisseurs en production qui alimentent ces données. Donc ça peut être en pointant directement sur des bases, sur des API, sur différentes choses. Quelque part, on fournit un catalogue générique de données d'entreprise sur lesquels on peut accéder et taper en temps réel, et la réponse arrive en temps réel. Et parfois, il peut y avoir des requêtes plus ou moins complexes, agrégées sur différents systèmes d'information hétérogènes qui permettent d'accéder à des données qui font sens pour les utilisateurs métiers. Donc, quelque part, c'est une alternative au data warehouse, data mart, avec évidemment l'argumentaire de on ne stocke pas la donnée deux fois ou trois fois. Donc, il y a des grands débats data warehouse versus data virtualisation. Ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais voilà, c'est une technologie comme une autre qui permet d'accéder à la donnée en masquant une complexité qui se cache derrière. Le Master Data Management, encore une autre technologie où il y a un peu de la redondance fonctionnelle aussi sur certains enjeux de la data virtualisation. Cette capacité avec différents patterns architecturaux à mettre sous gouvernance à travers un outil les données de référence de l'entreprise. Donc, le focus est que sur les données de référence, hein, pas sur les données transactionnelles. La data virtu, ça va être les deux. Master Data Management, c'est vraiment focalisé sur les données de référence. Et donc, voilà, et encore, vous connaissez tous, il y a différentes fonctionnalités clés qui permettent de se brancher sur les différentes sources, de mettre en place des synchros, de mettre en place des processus d'alerte s'il y a des problèmes de qualité de données, donc de permettre à des data stewards de faire un boulot de consolidation de certains contenus si nécessaire, et puis des métriques qui permettent de s'assurer qu'on a un patrimoine de qualité. Tout ça, on l'a mis dans la structuration de la connaissance, puisqu'aujourd'hui, avoir connaissance de son patrimoine de données, c'est en soi déjà commencer à créer un premier niveau de valeur. Et c'est juste un tout premier niveau, et il y en a d'autres. Justement, c'est après de commencer à faire travailler ces données, c'est-à-dire une fois qu'on a maîtrisé le cycle de vie de ces données, qu'on sait ce qu'elles sont, on va pouvoir commencer à faire un peu de valeur dessus. Donc, avec des données structurées, on va pouvoir attaquer le deuxième point qui est le make prediction. Donc, c'est quelque part faire parler les données, parfois en croisant des très gros volumes de données, en s'appuyant sur des modèles mathématiques. Et là, on va retrouver les classiques machine learning ou approches avec la logique floue qui permettent de dégager des tendances et aussi d'une certaine façon de faciliter la prise de décision qu'on va voir juste après. Faciliter les décisions, c'est encore un autre focus fonctionnel. Aujourd'hui, on a des décideurs, des opérationnels, qui chacun manipulent des informations à des grains potentiellement différents, mais qui pour autant sont en dépendance les uns avec les autres. L'intérêt de ces outils, de ces accélérateurs digitaux pour faciliter les décisions, c'est de présenter la bonne information au bon moment pour le bon profil. Là encore, dit comme ça paraît toujours très très simple. On sait qu'il y a les outils BI classiques qui ont cette vocation à le faire à travers des tableaux de bord plus ou moins évolués avec des capacités de drill-down. Et puis, il y a toute la famille d'outils de management visuel qui s'est développée dans le temps, donc quelque part qui va un peu embarquer des capacités BI, mais pas que, des capacités à croiser des documents pris de notes, des mind maps, des outils BI et toute autre facilité qui permettent d'agréger dans une sorte de tableau de bord collaboratif géré avec des privilèges particuliers. Donc des espèces de méta-tableaux de bord qui sont les livrables de ce management visuel. Tout ça dans l'ambition de fonctionner les décisions. On a parlé des données comme si on y avait accès à chaque fois facilement, en local, mais des fois la donnée n'existe même pas, ou alors on ne sait pas comment y accéder. Donc il y a de la création de valeur par la transmission des données, c'est la nouvelle famille qui suit. Et là encore, on essaie de la découper en trois volets. Déjà, communiquer les assets physiques, hein, on va dire le matériel entre eux. Donc l'idée c'est quoi? C'est de récupérer des données sous différentes formes pour transmettre la donnée d'un système physique à un autre. On dit comme ça, là encore, c'est extrêmement large. Qu'est-ce que ça embrasse? Beaucoup de choses. Ça embrasse par exemple tous les objets connectés qu'on peut mettre par exemple pour étendre les capacités d'objets non connectés, donc les machines industrielles par exemple, qui aujourd'hui fonctionnent très bien, qu'on n'a pas forcément envie d'en. Donc je disais simplement, en effet, dans cette famille-là, on part du principe qu'on n'a pas forcément pour pouvoir la travailler dans le cadre des autres familles qu'on a vues et de celles qui suivront également derrière. Donc, c'est de faire communiquer quelque part les machines qui portent des données. Je donnais l'exemple, je pense, au moment où ça a coupé, je rentrais dans le détail des IoT, qui sont une première catégorie, donc ces objets connectés qui, quelque part, aujourd'hui, à travers une quarantaine de types de capteurs différents, permettent d'aller chercher sur par exemple, des machines industrielles, qu'on ne souhaite pas forcément remplacer, d'aller chercher la température, des passages d'objets, des reconnaissances de formes, plein de trucs qui permettront derrière d'être exploités par des sources logicielles et de jouer un rôle dans la chaîne de production, soit sur l'ordonnancement, soit pour des raisons de sécurité, de maintenance prédictive de panne ou plein d'autres choses. Donc les IoT, c'est un des leviers pour rendre communicants des choses qui n'étaient pas communicantes. On peut avoir aussi des choses qui sont communicantes, mais avec des vieilles technologies ou autres, enfin, donc les PLC, donc ces boîtiers un peu qui permettent de rendre communicants dans différents secteurs des machines pour les faire passer après dans des réseaux SCADA et compagnie et remonter des informations, mais également faire descendre des informations pour piloter ces outils, hein. Donc on peut avoir des centrifugeuses pilotées par un réseau SCADA et le PLC, c'est le petit boîtier qui fait l'interface finalement entre le monde numérique et le monde analogique qui est derrière. Et puis, il y a faire passer l'information également par les réseaux filaires ou non filaires. Alors, je n'ai pas cité les réseaux filaires, mais il y a énormément d'enjeux à faire passer l'information par les réseaux non filaires, donc RFID, hein, donc portée relativement courte, pas chère, pas encombrant, ainsi de suite, auto-alimentée. UWB, c'est un peu moins connu, mais c'est des hautes fréquences qui permettent justement d'aller, des antennes à haute fréquence qui permettent notamment de détecter du RFID à une distance potentiellement jusqu'à 100 mètres, donc c'est quand même pas mal du tout. Commencer déjà à imaginer les cas d'usage qu'on peut avoir, que ce soit dans les entrepôts pour les stocks, si jamais il y a du RFID qui se balade, et pas que, on le verra après. GPS, bon, voilà, on ne présente pas, mais c'est intéressant aussi de pouvoir géolocaliser les choses. La 5G, évidemment, tout le buzz qu'on a autour de la 5G avec des gros volumes de données, parce que c'est l'intérêt de la 5G à échanger. Là encore, pour supporter différents cas d'usage, et il n'y a pas que le cas d'usage du chirurgien qui opère à l'autre bout du monde. On en reparlera encore de celui-là. LoRa, Sigfox, des protocoles industriels de connectivité, et puis les Wi-Fi, WiMAX, et il y en a plein d'autres. L'idée, c'est d'arriver à rendre les objets communicants entre eux. La réflexion paraît simple, mais ce n'est pas toujours simple. Voilà, je vous donne un exemple. J'ai un ami qui a une entreprise de bathymétrie. Bathymétrie, c'est faire des topologies sous-marines. Donc, il y a un camion qui réceptionne les données et puis il y a un bateau qui peut aller loin potentiellement sur une étendue d'eau pour faire des relevés topologiques. Les relevés topologiques sous-marins, ben, vous imaginez bien, ça, si on veut une certaine précision, ça brasse beaucoup d'informations. Et donc, il faut arriver à remonter l'information entre le bateau et le camion. Bah, vous vous doutez bien qu'on ne va pas tirer un câble RJ45 entre les deux. Il y a un moment, il faut se poser la question, quel est le protocole? Puis évidemment, on travaille parfois en zone blanche, donc les antennes 4G, 5G, on oublie, c'est souvent dans la pampa. Donc, comment on fait? C'est là qu'on commence à se dire, on n'a pas forcément. LoRa, Sigfox, ce ne sera pas adapté parce que la distance n'est pas bonne. Le Wi-Fi, ça ne marche pas non plus trop loin. Donc là, on va devoir peut-être aller s'orienter sur du WiMAX ou des liaisons satellitaires. Mais les satellitaires, c'est à la fois onéreux et puis le débit ne sera pas forcément adapté non plus pour remonter rapidement l'information. Donc vous voyez simplement que c'est bien de se dire on a plein de choses pour communiquer, mais en fait, il faut arriver à identifier des solutions pertinentes, des accélérateurs digitaux qui vont permettre d'aller plus loin. Là, aujourd'hui, du coup, c'est enregistré en local et c'est déversé plus tard. Donc, du coup, l'usine à traitement logiciel derrière, il y a d'autres personnes qui sont payées pour traiter les données topographiques. Ils ne peuvent pas faire ça en temps réel. Ils sont obligés d'attendre que comment dire, que l'analyse soit finie pour pouvoir commencer leur propre travail. Alors qu'on pourrait fluidifier les choses si on avait une technologie de communication qui fonctionne bien dans ce cas précis. Sécuriser. Secure Data Transfer, alors là, c'est là encore quelque chose de très générique. On a envie, okay, donc on a le tuyau, on a vu le tuyau qui permet de faire passer de l'information, ça c'est le premier. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ce tuyau de façon sécurisée pour transférer la bonne information entre un producteur et un consommateur de données? Donc là encore, il y a plein de technologies. On ne rentre pas dans le détail, mais vous connaissez tous, voilà, les USB, donc les bus de service. Les API avec des surcouches API Management qui vont gérer API Gateway et compagnie, qui vont gérer les aspects sécurité, réutilisabilité, exposition des API, ainsi de suite, pour un maximum d'optimisation des usages et des réusages. On peut aussi parler de la blockchain. Donc tout ça, ces sujets mériteraient, je dirais, une présentation pour chacun. Tout ça, ce sont des accélérateurs digitaux qu'il faut connaître fonctionnellement. Et potentiellement techniquement dans le détail pour ceux qui les implémentent derrière. La blockchain, donc il y a déjà eu des présentations à l'IRA, je ne reviens pas dessus, je crois. Mais l'idée là-dedans, c'est d'apporter un rôle de traçabilité et de sécurisation sur des enjeux d'identification ou d'ancrage dans le dur de certaines transactions. Donc on a vu que ça ne sert pas qu'aux cryptos, la blockchain, ça peut servir, on l'a vu dans le retail, par exemple, sur la traçabilité de certains produits frais, par exemple, des choses comme ça, de bout en bout, du producteur au consommateur. Et ça peut servir encore à plein d'autres choses, on le verra. J'ai cité aussi le scrapping, donc web scrapping ou screen scrapping. Alors ça, c'est quelque chose de pas toujours très propre, mais c'est une technologie qui existe pour récupérer des données. Donc les scrappers, là, donc, ce sont des logiciels qui vous permettent de parcourir. Donc, les web scrapping, par exemple, ça permet d'aller récupérer automatiquement des données sur des pages web, sur des sources qu'on a prédéfinies. Donc, ça permet, par exemple, de faire une veille sur des prix d'un concurrent, des choses comme ça, des prix publics qui sont affichés, donc d'automatiser ça. Et puis, on peut avoir du scrapping logiciel qui est porté souvent aujourd'hui par des outils RPA, c'est-à-dire la capacité à récupérer des données par les écrans, c'est-à-dire vous simulez, il y a un robot qui va lancer une transaction au nom d'un utilisateur nominal ou technique, qui va lancer une transaction dans un logiciel A, va aller dans l'écran, le sous-écran, et chercher le champ de tel nom pour récupérer la valeur associée. Cette valeur-là, il va pouvoir la transmettre dans un autre logiciel, ainsi de suite, en passant là encore par les écrans. Donc là, on chinte complètement les notions d'API ou de flux ESB. C'est l'APIisation des pauvres, ou en tout cas, enfin des pauvres, non, ce n'est pas donné déjà, les RPA, mais les pauvres, quand on n'a pas le choix, c'est-à-dire parfois, on est obligé de créer ce genre de flux par des solutions RPA pour notamment travailler sur des boîtes noires, donc typiquement des logiciels un peu anciens ne proposent pas d'API, ou alors des développements maison qu'on connaît ou qu'on ne maîtrise plus forcément trop sur des technologies anciennes, et on a peur de tout casser quand on fait ce qu'on appelle des changements intrusifs, c'est-à-dire qu'on modifie le code. On sait qu'on peut créer des effets de bord et on va éviter ça. Donc, on cherche une solution non intrusive qui ne change pas le code de cette boîte noire, mais qui pour autant permet d'exposer sous forme d'API ou équivalent des données qui viennent de l'intérieur. Et on sait très bien qu'on ne peut pas non plus taper directement toujours dans des bases de données, surtout que si on fait ça, notamment quand on fait des mises à jour, on risque de chinter complètement toutes les règles de validation des données et de pourrir complètement la base de données derrière. Donc, le scrapping. Et puis, bien sûr, on pense aussi à toutes les appliances de cybersécurité. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de se protéger. Donc, que ça peut être les boîtiers anti-DOS, des détections de trafic sur des flux non autorisés, ainsi de suite, les filtrages, DNS ou autre, tout ce qui permet aujourd'hui de sécuriser le fait qu'il n'y a que les données autorisées qui passent d'un point A à un point B. Collaborer avec le digital, c'est encore autre chose. C'est quelque part, à partir de données qu'on a sous la main, on est plusieurs, on a besoin de partager des informations structurées, non structurées, ensemble pour prendre des décisions ou avancer sur une intelligence collective. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On utilise des outils de vidéoconférence. On peut utiliser des outils de co-création, collaboration, donc des styles Miro, des outils de brand paper en ligne, des Kanban, tous ces outils-là qu'on va retrouver après déclinés dans des suites logicielles spécialisées aussi. Il y a plein de logiciels qui embarquent ces outils collaboratifs en ligne de façon intégrée. Et donc ça, c'est une autre forme d'accélérateur digitaux également. Nouvelle famille, on va vers l'entreprise virtualisée. Donc on a, ce que je disais en introduction, on a déjà commencé à virtualiser beaucoup de choses, des serveurs, enfin des machines virtuelles, des LAN, ainsi de suite. On virtualise va avoir beaucoup de choses qui vont nous permettre d'aller progressivement vers l'entreprise virtualisée. Donc du coup, on a déjà une première chose qui dit virtualisé, dit passage de quelque chose de physique à quelque chose qui est numérique. Donc, il faut qu'on s'accompagne d'accélérateurs qui nous permettent de passer d'un monde à l'autre, à moins qu'on ait envie de recréer avec nos petites mains des systèmes complexes. Et ça, c'est peu réaliste. Donc, typiquement, c'est toutes les formes de scanners aujourd'hui. Vous avez par exemple des lidars, hein, pour ceux qui ont des tablettes Apple et tout, il y a même des lidars embarqués. Vous faites un 360 autour de vous-même sur une pièce et vous avez une représentation 3D de votre pièce. Donc, c'est utilisé bien sûr par les professionnels des bâtiments pour très rapidement établir, alors pas avec des tablettes Apple, mais avec des outils un peu plus costauds, pour permettre de faire des plans ultra détaillés de pièces sans avoir à partir avec un double décimètre. Voilà. Donc, il y a ça, mais il y a aussi, bah, par exemple, dans le monde médical, vous passez un IRM, vous avez un scanner, une représentation 3D de votre corps avec des focus particuliers par rapport à ce qu'on recherche, par de la résonance magnétique. Voilà, c'est une autre forme de numérisation d'un asset qui est le corps humain. Mais aujourd'hui, voilà, on voit un IRM, mais on peut très bien penser qu'il peut y avoir autre chose qu'un corps humain. Donc, tout l'intérêt, c'est d'identifier le pouvoir unitaire fonctionnel de ces différentes briques de Lego pour arriver à dépasser les usages connus qu'on a tous dans la tête actuellement. Les échographies, pareil, même combat, avec d'autres types d'ondes. Les OCR, donc là, on est déjà un peu dans le numérique. Hein, donc, les OCR, cette capacité à reconnaître des. Voilà, c'est important quand on fait de la démat. Hein, typiquement, tous les sujets de démat passent par des OCR. Donc, c'est reconnaître des caractères pour passer d'un format image à un format données non structurées. C'est en soi déjà une première étape. Il y a image, données non structurées, données structurées dans le cheminement. Ensuite, la famille simulation de système. Donc là, ça devient intéressant. On rentre dans le vif du sujet de la virtualisation. Donc, on va rentrer dans le monde des jumeaux numériques. Alors, dans les bâtiments, ce sera le BIM et ainsi de suite, mais le terme générique, c'est jumeau numérique. Qu'est-ce qu'un jumeau numérique aujourd'hui? On va dire le dénominateur commun, ça va être une visualisation 3D d'un système ou d'un système de système. Donc, un système, on pourrait très bien se dire, c'est une pièce tout court, un boulon, un boulon en 3D qu'on peut tourner dans tous les sens et qui, on peut avoir du coup. Demain, tous les manufacturiers de pièces vont fournir un jumeau numérique de ces pièces pour permettre à des entreprises qui vont acheter ces pièces de les intégrer dans des modèles, donc dans des systèmes de systèmes. Voilà, donc j'achète ma vis chez tel fournisseur A, mon boulon chez le fournisseur B, j'assemble ma vis et mon boulon dans un outil spécial qui va me permettre de composer un système de jumeaux numériques en intégrant des contraintes particulières, des contraintes physiques, des propriétés physiques. Alors, selon les cas d'usage, ça peut être des contraintes simplement liées au potentiel de mouvement. Donc, je modélise par exemple une éolienne. Je vais composer mon système de système éolienne avec les différentes pièces de l'éolienne et je vais indiquer à quel endroit je peux faire une rotation ou je peux ouvrir une porte de maintenance technique, ainsi de suite, les engrenages qui sont à l'intérieur. Tout ça, je vais définir donc des propriétés de mouvement physique, mais ça peut être d'autres types de propriétés. Pour les architectes qui vont faire des ponts suspendus ou autres, bah, et forcément, il y a la résistance des matériaux qui va être virtualisée également, la notion de masse avec la simulation de trafic qu'on va faire dessus. Et on va stresser le jumeau numérique pont de cette façon-là. Et pour ceux qui font des voitures et qui donc ont déjà des jumeaux numériques de crash test, on va simuler l'énergie cinétique dans le système de système. Et évidemment, c'est un système de système, ce n'est pas juste un système de voiture, c'est en fait toutes les pièces de la voiture, en tout cas notamment du capot et de l'habitacle de premier niveau, sont stressées par le système. Donc on définit les contraintes entre eux et c'est la simulation de l'énergie cinétique et de l'impact qui va permettre de voir il y a de la résistance des matériaux, il y a la propriété physique de mouvement et tout ça permet de simuler de façon très réaliste aujourd'hui des crashs. Donc, système de système en mode jumeau numérique, on voit qu'il y a, ça existe déjà, c'est pas nouveau. C'est nouveau pour certaines entreprises, c'est ancien pour d'autres. et ça a vocation à énormément se développer, on va le voir après. Troisième étape, la virtualisation des assets de l'entreprise. Donc là, il y a plusieurs ambitions qui se cachent derrière, mais l'idée, c'est de se dire, l'entreprise, ce n'est pas juste du matériel, c'est aussi des processus, une organisation, un système d'information et du matériel, technique, digital ou pas. Et comment est-ce qu'on croise tout ça? Parce que la complexité d'une entreprise, c'est aussi d'avoir une représentation, on va dire, factuelle, utile, qui permet de croiser ces notions un peu arbitraires, d'organisation, de processus, c'est flou pour certains, avec des systèmes très concrets. Et donc, bon, on a une première génération qui existe depuis 20 ans, qui sont les logiciels d'architecture d'entreprise, hein, les cartos d'entreprise. C'est très bien, ça permet à travers un métamodèle qui est une forme d'ontologie, de modéliser de façon relativement statique les assets d'une entreprise, donc depuis une vision très stratégique jusqu'à une vision assez détaillée du système d'information. Et pourquoi pas d'assets techniques, hein, on peut très bien modéliser une machine, l'existence d'une machine de production industrielle dans une cartographie d'entreprise, mais ça va s'arrêter là, assez très vite. On peut bien sûr connecter, donc il y a beaucoup d'argumentaires sur les éditeurs concernés pour dire bah oui, mais on peut se connecter à une CMDB, à plein de choses. Oui, bien sûr, en effet, déjà, ce n'est pas toujours aussi simple qu'on le pense parce qu'il y a le cycle de vie de la donnée qui est maître de quoi et souvent on n'est rapidement pas d'accord. Et puis, ça reste quand même quelque chose pour l'instant voilà, qui est plus un snapshot qui permet de projeter des trajectoires de transformation. Mais c'est vraiment important, utile pour les architectes d'entreprise, entre autres. Par contre, là, je vais parler d'un autre type. C'est que, imaginons qu'on croise les jumeaux numériques. Donc, les jumeaux numériques, on a vu, c'est super, on a notre objet, on peut s'amuser à faire tourner l'hélice de l'éolienne. Génial. Ça peut servir, du coup, en l'état, on le verra sur des cas d'usage, par exemple, de formation anticipée à de la maintenance, par exemple, sur des. Je sais pas, vous avez des ouvriers qui vont devoir aller travailler sur une plateforme pétrolière. On va les entraîner à l'avance sur des jumeaux numériques avant de les projeter réellement à 1 000 km de tout espace vivant parce que bah, faut pas qu'ils découvrent sur place. Donc ça, c'est super. Le jumeau numérique tout seul est capable de fournir ça. Maintenant, imaginons un instant qu'on croise la simulation de process qu'on a vue au tout début de la présentation avec le jumeau numérique. Là, ça va commencer et puis qu'on associe les machines de production, avec l'aide d'IoT ou pas, comment dire, aux jumeaux numériques. Là, ça va commencer à devenir vraiment intéressant, puisqu'on va avoir une vraie virtualisation de la production temps réel. Le jumeau numérique va jouer exactement ce qui se passe physiquement dans les usines, si c'est une usine, ou dans les services, si ce sont des services. Et on peut également simuler, donc stress tester quelque part, avec l'aide de notre jumeau numérique et notre outil de simulation de processus, des cadencements, des choses complètement différentes. Donc là, on se donne les capacités à se créer un environnement industriel de test virtualisé. Donc là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Hop.
Et tu parlais de lean manufacturing tout à l'heure, ça c'est quand même le rêve absolu de pouvoir simuler une value
Ah ouais.
stream
Oui.
dans son ensemble.
Oui, tout à fait. Mais alors, ce que j'appelais le lean, c'est le lean qu'on a connu ces 15-20 dernières années, voilà, qu'on a étendu avec le Six Sigma. Mais donc, c'est finalement plus des approches de qualiticiens et de statisticiens combinés qui permettaient d'atteindre un certain niveau d'optimisation des processus. Mais on a atteint un peu le plafond. Je veux dire, il y a eu des générations de consultants lean qui ont quelque part tordu les processus au maximum. Il y a un moment, on a atteint une limite, parce que c'est l'être humain qui devient à la limite au bout d'un moment. Et donc, le nouveau levier de performance, bah, c'est par le digital, parce que le digital va permettre, et on va le voir notamment dans ce cas-là, comme j'ai dit que l'être humain est la limite, bah, ça tombe bien. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà des limites de l'être humain? Parce que là, on n'a pas parlé d'être humain jusqu'à maintenant. On n'a parlé que de briques unitaires du digital. Et là, c'est l'exploitation des sens humains pour des cas d'usage divers. Alors, donc, des titres journalistiques, comment est-ce qu'on peut étendre les sens humains? Donc, aujourd'hui, l'être humain, on l'a dit, a ses limites. On a nos cinq sens, hein, bien connus. Je rajoute un sixième qui n'est pas le sixième sens de l'intuition, mais qui est, comment dire, que la force physique, enfin, c'est plus une capacité qu'un sens, mais voilà, on est capable de transporter des petits cartons, on n'est pas capable de transporter une palette chargée tout seul dans nos mains sans se casser quelque chose. Donc, on a nos limites à tous les niveaux, on a une limite dans notre audition, dans notre vue, et donc, comment le digital peut apporter les réponses au-delà de ses limites? Les exosquelettes, vous connaissez tous, ça commence à se développer beaucoup dans le monde industriel, mais pas que. Évidemment, tous les reportages qui sont faits à la télé aujourd'hui, c'est plus du tout la même époque que le caméraman qui portait une caméra très lourde sur son épaule avec du coup des vagues parce qu'il courait derrière l'animateur. Aujourd'hui, on a des stabilisateurs intégrés. Alors, il y a de la compensation logicielle, temps réel, mais il y a aussi des exosquelettes qui vraiment permettent de piloter la caméra avec deux doigts, de quasiment pas sentir son poids et d'avoir une stabilité optimale du film. Ça, c'est un exemple, mais en entreprise, vous avez la photo, un exosquelette qui va soulager l'opérateur pour transporter des masses plus ou moins importantes. Voilà. Toute forme de prothèse intelligente, donc là, le terme est très générique, on peut très bien avoir, imaginez, aujourd'hui, quand on a des lunettes, ce sont des verres, hein, c'est des verres adaptés à notre vue. Demain, on peut très bien avoir des dispositifs correctifs dynamiques par le digital, c'est-à-dire que le digital va créer une image qui compense votre propre déficit oculaire ou qui va chercher des détails que votre œil n'est pas capable d'aller chercher et qui va vous les renvoyer en tenant compte de votre réelle myopie ou hypermétropie ou astigmatisme. Donc, on peut aller très très loin là-dedans. Pareil pour l'audition. C'est ça qu'on appelle les prothèses intelligentes, voir mieux, voilà, entendre mieux, porter plus, tout ça. On va mettre ça derrière les termes prothèses intelligentes. La réalité augmentée, bien sûr, hein, donc les fameuses lunettes connectées ou les casques de réalité virtuelle, mais qu'on utilise en mode réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée, vous continuez à voir ce que vous voyez, mais vous avez un complément d'information qui se rajoute par-dessus. Donc, typiquement, les cas d'usage d'anticipation, vous êtes dans la rue avec vos lentilles qui correspondent, des lentilles idéalement, hein, on n'y est pas encore tout à fait, qui vont en temps réel vous dire « Ah tiens, cette personne à qui vous êtes en train de parler, elle vient de fêter son troisième anniversaire professionnel, j'en sais rien, c'est le copain de copain d'un copain. » Bref, donc ça peut aller très très loin en croisant des informations des réseaux sociaux, d'autres réseaux professionnels ou de bases publiques. Ça vous permet en un rien de temps, voilà, vous n'aurez plus à vivre le stress de ne pas reconnaître quelqu'un dans la rue qui vous accoste. Par exemple, bon, on n'y est pas encore tout à fait, mais un jour. Et puis les hologrammes, bon, y a eu des tentatives, même dans le monde politique, de valorisation des hologrammes. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît les hologrammes à minima avec Star Wars, mais demain, ça pourra devenir des outils très intéressants, apparemment, en partant du principe que ça ne reste pas juste des hologrammes, et on le verra après, ça commencera à devenir intéressant quand on pourra les coupler à des systèmes haptiques. Parce qu'aujourd'hui, avoir juste une image en 3D, c'est bien. Mais bon, il faut tourner autour soi-même, ce n'est pas très pratique. On ne peut pas la manipuler. Quand on commence à se dire, tiens, j'ai un hologramme, mais je peux manipuler mon hologramme, quitte à avoir des gants connectés un peu particuliers, et je peux commencer à travailler avec mon hologramme, le tourner dans tous les sens, l'élargir, creuser dedans, ouvrir, fermer des choses. Là, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Je vais vous projeter un clavier virtuel dans l'air et avoir une sensation réelle de frappe au clavier. Aujourd'hui, on vous projette un hologramme de type clavier, vous n'y arriverez pas. Enfin, vous ferez plein de fautes parce qu'il n'y a pas le retour, du toucher, du sens du toucher. Et le sens du toucher, ce sont les systèmes haptiques. On va le voir un petit peu plus loin. Et tout ça, ça tombe bien parce que ça se développe énormément en ce moment, donc les systèmes haptiques. Donc, en fait, on a plein de briques déjà unitaires qui sont relativement matures, mais qui n'ont pas forcément un intérêt énorme aujourd'hui, ou en tout cas, on n'en a pas forcément trouvé les cas d'usage clés. Et en commençant à les combiner, on va se dire, ah ben, finalement, ça va être pas mal. Puis on va même rentrer dans des cas d'usage anticipés, hein, dans des films d'anticipation qu'on a tous vus. Collaborer avec les machines, donc c'est faciliter des tâches qui sont faites par des êtres humains, mais où on atteint les limites de l'être humain. Donc là, vous avez une photo. d'un cobot, hein, donc c'est un robot qui, de collaboration industrielle qui va vous permettre, je ne sais pas, de souder mieux, de voir mieux. C'est le fameux robot du chirurgien qui opère à l'autre bout du monde. Hein. On peut faire du cobot qui est à côté, mais ça peut être aussi un cobot qui est jumelé à un autre cobot et le chirurgien va manipuler des choses avec une précision qui dépasse la précision du doigt humain et ce, potentiellement à distance. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les interactions à l'oral, par exemple, hein, avec la voix. Hein. Il y a déjà des machines qu'on pilote avec la voix, tu démarres, tu t'arrêtes. Donc, tout ce qui est speech-to-text, text-to-speech aussi. Donc, reconnaissance vocale et capacité à passer de l'écrit à l'oral et de l'oral à l'écrit. Ce sont aussi des accélérateurs digitaux qui permettent de faire des interactions homme-machine plus avancées. Pour aller au-delà des limites. Hein. Donc, typiquement, vous avez une déficience visuelle, bon, bah, on est bien content d'avoir du speech-to-text et du text-to-speech. Voilà. Et puis après, on va aller dans la simulation des sens humains. Les fameux cinq sens. Pour des raisons pratiques, pour des raisons ludiques, il y a des vrais enjeux à développer par le digital certains sens humains. Quelque part, la réalité virtuelle, vous la connaissez tous, tout le monde a déjà joué au moins une fois avec un casque de réalité virtuelle. Donc là, on est en immersion totale dans un monde numérique. Les systèmes haptiques, je vous en parlais tout à l'heure, donc c'est les systèmes qui vous redonnent la sensation de toucher. Donc tout de suite, les gamers vont dire « c'est génial, j'aurai ma combinaison haptique demain », ça commence déjà à se faire. Donc des combinaisons haptiques qui vous donnent le sens du toucher, c'est-à-dire… vous aurez vraiment un impact de balle ou je ne sais trop quoi, de hache ou je ne sais pas quoi en fonction de ce que vous faites, si vous faites des jeux de combat. Bref, le retour touché est quand même un sens très immersif et c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, on a le son, on a l'image, mais on n'a pas le toucher. Donc là, c'est vraiment le déplacement. On essaye d'aller mieux. Hein. Aujourd'hui, on fait de la réalité virtuelle dans des entrepôts et donc on peut courir... se cacher contre des zombies ou je ne sais trop quoi, en courant réellement. Il y a aussi, pour ceux qui n'ont pas des entrepôts à disposition pour s'amuser, il y a des systèmes de tapis roulants, machin, qui existent, 3D, enfin 3D, 360, où en fait, vous courez sur place, il y a une intelligence qui fait que si vous changez de direction, vous restez quand même toujours sur place. Bon, il y a quand même des mécanismes de protection parce qu'on peut finir par se casser la figure. Mais dans l'idée, aujourd'hui, on sait faire le déplacement, on sait faire la vue, on sait faire le son, mais pas forcément bien le toucher. Après, vous allez me dire, bah, il reste l'odorat. Alors, est-ce qu'il y a un enjeu l'odorat, je ne sais pas. Et le goût, alors là, le goût, c'est hyper compliqué. Donc, odorat et goût, je pense que non. Peut-être un jour, hein, on verra, le futur nous dira. Mais en tout cas, la prochaine révolution, ce sont les systèmes haptiques. Dans toutes nos familles, toutes nos briques fonctionnelles, maintenant on se dit, ok, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, ce sont des briques unitaires, comme on a vu, et puis chaque brique unitaire, j'ai essayé de vous les présenter très rapidement avec des cas d'usage actuels, de la brique unitaire. Maintenant, on peut se dire, oui, mais l'intérêt, c'est de composer avec ces briques unitaires. Donc là, je vous ai préparé deux exemples réels de vrais clients, et puis un troisième que tout le monde connaît d'anticipation, mais qui est justement aussi la combinaison de plusieurs de ces briques. Donc un premier contexte, donc c'est un client donc qui a un processus industriel en difficulté. Concrètement, il met 2 ans pour intégrer une nouvelle ressource. Il y a des départs en retraite qui sont prévus sous moins de 3 ans. Il y a une vingtaine d'applications différentes qui supportent le même processus, énorme. Ces 20 applications, bah, en fait, la plupart sont maison. Donc il y a une forte dette fonctionnelle et technique, on en rigolait tout à l'heure, mais voilà, c'est une réalité dans beaucoup d'endroits, et il n'y a pas de vision consensuelle non plus partagée par les experts sur les processus métiers, ce qui ne facilite pas la montée en puissance des nouveaux venus. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, voilà, on se confronte au vrai jeu. Donc là, dans un atelier d'idéation, on va poser le contexte, on aura fait une séance un peu d'acculturation fonctionnelle sur toutes les briques, et après on va commencer à co-réfléchir ensemble sur comment aller au-delà des difficultés métiers, toujours en parlant fonctionnel. Les BPMS, pourquoi? On a le côté process, on l'a vu, c'est un process qui est en difficulté, un process sur lequel il n'y a même pas de vision partagée. Donc, il y a un vrai travail à faire déjà par le métier pour se mettre d'accord, mettre tous les experts d'accord sur quelles sont les différentes cinématiques possible de ce process, parce que s'il n'est pas documenté, j'ai envie de dire déjà sur le papier, on va démarrer de trop loin pour intégrer une nouvelle ressource. Ensuite, une fois qu'il est porté sur le papier, on a envie d'accompagner les nouvelles ressources. Donc typiquement, les BPMS, on peut les mettre en surcouche logicielle pour que, parce qu'évidemment, qui dit 20 applications différentes, dit 20 développements avec des logiques de présentation de contenu différentes. Donc en termes d'ergonomie, c'est une catastrophe. L'idée, c'est de faire un frontal d'abstraction de ce que proposent ces 20 applications en ne proposant que l'information utile pour la tâche prévue. Donc, au lieu d'avoir un cockpit d'avion avec 300 champs qui clignotent dans l'écran, vous n'en aurez que 3 pour pouvoir saisir une information et cliquer sur suivant parce qu'il n'y a que ça qu'on attend de vous dans la tâche à l'instant T. Donc ça, frontal d'abstraction par le BPMS. Maintenant, le BPMS, c'est pas magique. Ça va faire l'orchestration du processus qu'on aura convenu avec les experts. Ça va offrir donc une ergonomie unique de bout en bout sur l'exécution du processus. Maintenant, ce n'est pas en vase clos, ce BPMS. Il va falloir qu'il s'appuie sur les données de ces différentes briques. Donc, ça veut dire qu'il va falloir apaiser le système d'information et c'est le BPMS qui va appeler les différentes API, alors soit en direct, soit via un API management, peu importe, hein, à la limite, mais il faut apaiser. Donc, ça veut dire que les différentes briques, les 20 applications, il va falloir les rétro-analyser fonctionnellement quand même pour comprendre les fonctions et après, soit modifier leur code pour apaiser, les API n'existant pas aujourd'hui, soit alors, on disait, faire l'apaisation du pauvre, passer par du RPA pour pouvoir faire du scrapping par du RPA, pour pouvoir apaiser artificiellement des boîtes noires jetables, parce qu'évidemment, le but, c'est de les remplacer aussi, parce qu'on a un risque industriel important à faire tourner un processus critique sur des applications qui ont une forte dette fonctionnelle et technique. Donc, il y a un enjeu court terme de permettre de monter en puissance à des nouvelles recrues rapidement sur un process en simplifiant le process, donc en normalisant le process, en l'ouvrant au système d'information via le BPMS et l'apéisation. On force l'apéisation sans dépenser trop d'argent par des approches RPA pour créer des API sur des composants jetables et ça permet de débloquer la situation, donc d'intégrer rapidement des nouveaux. Au passage, le BPMS, du coup, on a une vision temps réel de quelles sont les occurrences de process en cours, qui travaille sur quoi en temps réel. Donc, en plus, au passage, on bénéficie d'un monitoring, d'un reporting temps réel sur l'activité des process qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est cerise sur le gâteau. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'assemblage de trois briques fonctionnelles. Voilà. Et alors là, je vous en donne un deuxième. Pareil, c'est un vrai client, un vrai cas réel. Donc, c'est un client du monde du divertissement qui souhaite offrir davantage de valeur, plus de chiffre d'affaires, à travers des services personnalisés vers le client. Donc, le contexte, c'est un contexte de recherche de différenciation par des services avancés pour des clients de parcs d'attractions. Et donc, quelque part, les idées qui émergent du marketing et autres, c'est des offres personnalisées pour des clients authentifiés, d'une part, enfin, qui acceptent d'être authentifiés, une optimisation aussi du parcours selon les préférences de chacun, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les sensations fortes, il y en a qui ont moins de 10 ans, donc ils ne pourront pas faire certains trucs, il y en a qui sont accompagnateurs, donc chacun a ses petites contraintes, et en fonction de ses contraintes, on aimerait bien un outil idéal qui nous fait le parcours optimisé pour faire un maximum de choses dans la journée en tenant compte des files d'attente qui n'arrêtent pas de bouger, évidemment. Et de la famille qui va des fois s'éclater sur différentes attractions, revenir, ainsi de suite. Ouais, non, mais dit comme ça paraît simple, hein, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Voilà, et puis également, le marketing se dit, ces offres personnalisées, c'est-à-dire, tiens, je vous fais moins 20% si vous achetez une glace dans le glacier qui est près de l'attraction machin, si vous y allez dans le quart d'heure. Bref, voilà, parce qu'ils ont... ils doivent déstocker les glaces qui sont de toute façon perdues. C'est double intérêt. Puis ça peut... Donc, s'il y a une vraie intelligence à mettre derrière, mais quel est l'impact de ces offres personnalisées? Le marketing, il veut savoir. Ça marche, ça ne marche pas, ce type d'offre. Donc, il va falloir trouver une solution pour tracer l'impact. Et puis, au passage, pour des raisons à la fois de sécurité ou de pertinence de la signalétique, on aimerait optimiser les parcours de foule. Parce que des fois, on se rend compte que c'est mal foutu. On n'a pas posé les choses au bon endroit. C'est mal indiqué. Et les gens se paument. C'est pas clair. les différentes briques. Et encore, il y en a certaines qui sont en effet citées, qui n'ont pas forcément été mises là dans le petit texte en vert. Principalement, qu'est-ce qui a été envisagé? D'une part, c'est la clé, c'est déjà de reconnaître le client et de pouvoir le géolocaliser. Donc, ça veut dire un petit bracelet RFID à l'entrée, comme vous avez des fois maintenant dans des piscines ou autres, ou des logements dans des hôtels ou je ne sais pas quoi, avec un même bracelet, vous pouvez ouvrir des casiers, ouvrir des portes de machin. Donc là, en plus, comme des parcs d'attractions ont aussi leur hôtellerie, l'idée, c'est avec un bracelet ou collier ou peu importe RFID, étanche de préférence pour les parcs qui font des trucs nautiques, vous faites tout. Vous pouvez poser vos affaires dans un casier à vous, verrouillé. On vous identifie. Vous pouvez même faire du paiement cashless, hein, parce que c'est aussi un des grands enjeux des gérants de ce genre de parc. Voilà, que le gamin puisse. Il a quelque part son bracelet qui a 10 euros prépayé sur son bracelet. Il peut s'acheter 3 glaces en autonomie sans avoir besoin de courir avec des billets dans sa poche. Donc, il y a énormément de cas d'usage, on va dire plus détaillés, qui sont sous-jacents. Mais donc, RFID, premier truc, bracelet RFID. Le bracelet RFID, idéalement, on veut le géolocaliser. Si on arrive à géolocaliser en temps réel, idéalement, l'ensemble des utilisateurs du parc, on est les rois du pétrole. Donc, UWB, rappelez-vous, c'était la technologie, c'est des antennes. Donc, imaginez, c'est des portées de 100 mètres à peu près. Vous mettez une antenne au-dessus de chaque attraction. Vous êtes capable de géolocaliser en temps réel toute la foule. Et donc, après, évidemment, ça veut dire qu'il y a des logiciels adaptés qui permettent de mettre les petits points des personnes. Au passage, les bracelets, vous différenciez juste adultes, enfants, handicapés, pour être capable mais de façon anonyme. Voilà, vous avez juste une population anonyme avec les bracelets RFID. Maintenant, on va aller plus loin. On a parlé d'utilisateurs authentifiés. Donc, ça veut dire qu'on va coupler à un smartphone un bracelet RFID. On fait l'association. Et donc là, vous avez créé au préalable votre compte personnel. Et donc, vous êtes authentifié. Et donc, vous allez pouvoir bénéficier d'offres marketing. Ces offres marketing, elles vont tenir compte de la géolocalisation des familles, des préférences que vous avez rentrées. Je suis gourmand, j'aime les glaces, j'aime les bonbons, j'aime je ne sais pas quoi. J'ai envie de m'acheter une peluche. Et en fonction de tout ça, de leur stock. Donc, en effet, oui, il y a de l'API que je n'ai pas mis. Il y a forcément de l'API pour que les différents systèmes convergent. Il peut y avoir des CEP, des moteurs de corrélation, qui vont justement faire des corrélations entre des états de stock et des volontés de certaines personnes identifiées pour promouvoir automatiquement, générer automatiquement une offre personnalisée que peut-être 5 personnes uniquement dans le parc auront et qui correspondront à une opportunité réelle pour les gérants du parc et de faire plaisir et en même temps de répondre à un besoin de déstockage. Les outils BI pour visualiser en temps réel les déplacements de foule et ainsi de suite. Les solvers, rappelez-vous les solvers, hein, le parcours idéal, ça fait partie des problèmes NP complets par rapport à plein de contraintes. Et donc, le parcours idéal en fonction des durées de queue dans les différentes attractions, ça fait appel à des technologies de solver. Et puis, tout ce qui est analyse des parcours de foule et puis également rétro-analyse des résultats des offres marketing. Parce qu'à partir du moment où vous avez fait des offres et que vous tracez les gens authentifiés, vous êtes capable de voir si les gens ont répondu ou pas à votre offre marketing. D'accord. Donc, ça répond aussi au passage au cahier des charges très simple qui a été partagé là. Et le machine learning, c'est quelque part aussi, il y a un intérêt avec le temps à cumuler un maximum de données pour voir quelles sont les offres marketing qui marchent, quels sont les mouvements de foule qui posent problème aussi, et pour pouvoir simuler après. Donc, il y avait aussi quelqu'un qui a parlé. Donc, on peut en effet après faire un jumeau numérique du parc pour high level, pour centrer sur les déplacements de foule, pour optimiser notamment par rapport à des nouvelles signalétiques, voir si elles ont un effet intéressant ou pas. Des fois, on peut déplacer une attraction un petit peu pour la mettre ailleurs et voir si ça a un impact positif ou pas sur le parc. Et puis, vous l'avez tous compris, l'aspect sécurité, ne serait-ce que quand on vide un parc. Moi, ça m'est arrivé, il y a des grands parcs au nord de notre région. Il y a de l'animalier et du parc d'attractions. C'est énorme en superficie. Quand c'est l'heure de la fermeture, Je ne sais pas comment ils font, honnêtement, pour s'assurer qu'il n'y a plus personne dedans, à part lâcher les chiens, enfin, je ne sais pas. Et donc là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent voir où sont les gens, aller les chercher pour les faire évacuer. Et puis en cas d'exercice d'évacuation, c'est quand même super intéressant de savoir où sont les gens. Voilà.
Pour les cas contacts au Covid aussi, ils peuvent te
Non,
rappeler.
après là, on rentre dans des problématiques qui ne sont pas propres. Et puis, pour finir, un troisième cas, le métavers. Donc là, j'ai mis anticipation, on est à moitié dedans, mais il y a encore beaucoup de fantasmes. Il y a encore beaucoup de fantasmes sur le métavers, mais soyons fous. Donc, imaginons un métavers, en fait, des métavers, parce que de toute façon, il y aura plusieurs fournisseurs de métavers hein, qui vont se tirer la bourre ensemble. On a envie de s'acheter une identité. Okay. Donc, on veut être capable d'aller dans le métavers Microsoft, Facebook, enfin, Meta, pardon, Google peut-être, enfin, je ne sais pas, Amazon, enfin, ils vont tous créer leur métavers très certainement. Donc, on a envie d'avoir une identité unique qui peut passer de l'un à l'autre. Puis, cette identité unique, ce n'est pas juste un skin et une identité, ce sera à terme une collection de NFT parce que mon yacht que j'aurai acheté à prix d'or sur le métavers X, ben, je vais pouvoir aller naviguer dans les eaux du métavers Y. Bon, là, on commence un peu à délirer, mais je pense que ça parlera à des gens. Donc, des NFT, hein, des œuvres d'art, des dessins, des machins, je ne sais pas, enfin plein de choses, des objets. Je vais me recréer mon monde virtuel à coup d'achat de NFT et d'identité unique cross-métavers. J'ai envie d'avoir la sensation du toucher parce que, OK, le casque, son image, c'est bien, mais j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de sentir le toucher. Et puis, j'ai besoin. Parce que je suis dans une entreprise moderne qui se projette dans le futur. Je veux collaborer avec mes collègues, donc collaboration privée, hein, ce n'est pas public, tout le monde voit ça. Collaborer à distance sur des systèmes industriels qui sont de production, de vraie production, qui sont peut-être à l'autre bout du monde. Et j'ai envie de les simuler ou pas, ou de changer en temps réel un cadencement, ou je ne sais pas trop quoi. Il y a beaucoup de choses. Donc, la réalité virtuelle, on l'a vu. C'est normal, c'est pour le côté immersif, son image, système haptique. En effet, pour ajouter à ça le toucher. Le côté identité unique, cross-métavers, et puis les achats de NFT, il y en a beaucoup qui poussent actuellement la blockchain comme étant le support d'avenir pour sécuriser, tracer ça dans le temps, cross-métavers. On verra si ça se fera ou pas. Et puis, sur la collaboration privée-distante, ben, on l'a vu, c'est l'assemblage qu'on a vu tout à l'heure, jumeau numérique, simulation de process si on veut faire de la simulation, IoT, parce que du coup, il y a certaines machines de production. Qu'on va, en fait, le jumeau numérique sera connecté à des IoT qui seront des capteurs et des activateurs au niveau des machines industrielles. Donc, on va bidouiller notre jumeau numérique, ça va bidouiller à l'autre bout du monde notre machine. Un peu le cas du chirurgien qui opère le patient à l'autre bout du monde. Mais sauf que là, c'est sur des machines de production. Et, évidemment, il ne faut pas donner les accès à n'importe qui. Ça crée des risques de cybersécurité, mais le champ des possibles est là, enfin sera là bientôt. Techniquement, j'ai envie de dire, chaque brique existe déjà. C'est l'assemblage qui n'est pas courant. Je ne connais pas aujourd'hui d'entreprise qui fonctionne comme ça, mais ce n'est pas complètement impossible qu'on avance vers ça. Et puis le management visuel, bah, pareil, voilà, on peut avoir un board de direction qui est encore à une autre zone du monde et qui voit ces différents dashboards. Indiqué, puis à un moment donné, ils vont dire, tiens, on augmente la cadence sur tel truc. Donc, hop, ils bougent leur petit curseur dans l'outil de management de visuel. Et derrière, en cascade, ça va activer les choses en production et ça va les reproduire sous leurs yeux avec le jumeau numérique. Donc, ils vont voir ce qui se passe sur le jumeau numérique. Évidemment, on pourrait aussi imaginer voir ce qui se passe avec des caméras, simplement qu'on voit des flux vidéo, mais voilà, ils pourront voir en temps réel l'impact de leurs décisions sur des jumeaux numériques avec une certaine précision.